Ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 19h30 temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 21 avril 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, violence en République démocratique du Congo, 1,5 million d'enfants à risque du fait de la crise dans les Kasaï, c'est ce que rapporte l'UNICEF. Et toujours en RDC, la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala viole l'accord de la Saint-Sylvestre selon la Conférence épiscopale nationale. Lutte contre Al-Shabaab, l'armée kényane affirme avoir tué 52 islamistes. Nous reviendrons également sur l'attentat d'hier à Paris. Retrouvez Eric Manirakiza à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Violence en République démocratique du Congo. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies annonce que le seuil d'1 million de déplacés est franchi dans les Kasaï. Un sujet sur lequel nous reviendrons en seconde partie d'émission. RDC toujours, l'abbé Donatien Tcholé hausse le ton. La désignation du Premier ministre Bruno Tshibala constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre, estime le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Une situation qui, d'après lui, explique la persistance de la crise. Pour le secrétaire général de la CENCO, la rencontre entre le président Kabila et le président du Rassemblement reste indispensable. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les évêques n'ont rien à voir avec la personne du Premier ministre. Les évêques ne se sont pas prononcés sur sa capacité de bien travailler ou pas, mais les évêques notent que la façon dont elle a été nommée est une entorse à l'accord. Quid du dossier Katumbi, je crois que c'est la question est revenue deux fois. Comme vous le savez, la CENCO avait reçu mandat ou a été chargé par les parties prenantes à l'accord. Le rapport a été confectionné et remis à qui de droit. Dans les textes, les évêques sont en train de déplorer une certaine léthargie dans l'application de ces mesures. Je crois qu'il n'est pas plus clair que cela. Par rapport à l'enquête demandée sur la situation dans Kasaï, est-ce que la CPI peut jouer un rôle là-dessus? Moi-même, à qui la question est posée, je ne maîtrise pas les contours juridiques de la CPI. Donc, il me serait hasardeux de donner une réponse sur une matière qui demande une certaine expertise du droit international.
C'était l'abbé Donatien Tcholé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Congo-Brazzaville, cette fois-ci, les autorités appellent à condamner comme une tragédie les violences post-électorales dans le Poul. Il faut dire que les autorités sont accusées d'une répression sanglante dans ce département du sud du pays. Au Nigeria, plusieurs personnes ont été tuées par la chute d'un câble électrique à Calabar, dans le sud du pays. Les victimes regardaient la télévision, un match de la Ligue Europa précisément. Les détails avec Arzuma Compaoré.
Jeudi soir, alors que des supporters de Manchester United et d'Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder le quart de finale de l'Europa League à la télévision, un câble leur est tombé dessus. Le bilan de l'accident est controversé. Jeudi soir, la police parlait de 7 personnes tuées, alors que l'agence de presse nigériane NAN avance quant à elle un bilan de 30 morts. L'explosion d'un transformateur a causé la chute du câble de haute tension. La crise énergétique au Nigeria a conduit le pays à s'alimenter en courant à travers des générateurs et des transformateurs privés. Entre janvier et octobre de l'an dernier, plus de 100 personnes sont décédées par électrocution au Nigeria et une soixantaine ont été grièvement blessées selon Ibadan Electricity Distribution Company.
Un militaire congolais et 2 miliciens des groupes d'autodéfense Mai Mai ont été tués dans des combats qui ont duré 24 heures dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que rapporte l'AFP citant une source militaire. Ces combats ont eu lieu à la suite d'une attaque par les miliciens de la position tenue par les FARDC dans la localité de Kalonga, indiquent les autorités. Les assaillants auraient été repoussés et le calme serait revenu. L'armée kényane affirme avoir tué ce vendredi 52 militants islamistes suite à une attaque contre un camp du groupe Al-Shabaab dans le sud de la Somalie. On fait le point avec Lionel Gaïma.
Ayant observé une concentration des militants d'Al-Shabaab dans la région du Bas-Juba, les responsables militaires kényans ont ordonné une attaque par des troupes terrestres appuyées par l'artillerie, rapporte dans un communiqué le porte-parole militaire kényan, le colonel Joseph Owuot. L'opération a permis de neutraliser le camp du groupe et de récupérer des fusils, trois engins explosifs ainsi que du matériel de fabrication de bombes, a-t-il précisé. Le Kenya a déployé des milliers de soldats en Somalie voisine dans le cadre de la mission de l'Union africaine dans ce pays, l'AMISOM. Il y avait envoyé des soldats pour la première fois en 2011 à la suite d'une série d'attaques de militants somaliens sur son sol. Al-Shabaab se bat depuis des années en vue d'imposer un régime islamiste en Somalie. En janvier, ce groupe a affirmé avoir tué des dizaines de soldats kényans lors d'une attaque contre un poste militaire isolé en Somalie. L'armée kényane avait fait état de son côté de 9 soldats et 70 militants tués dans cette attaque.
Migration vers l'Europe, le nombre de personnes mortes depuis janvier en Méditerranée en tentant de traverser vers l'Italie dépasse le millier. Rien que durant le week-end de Pâques, souvenez-vous, quelques 8500 migrants ont été secourus selon le HCR.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'attaque perpétrée à Paris hier soir par Karim Chorfi, qui a fait un mort et trois blessés, a durci la campagne présidentielle française, désormais polarisée sur la lutte antiterroriste à deux jours du premier tour. Nathalie Barge.
Ce matin, les candidats ont appelé à durcir la lutte antiterroriste. Marine Le Pen, leader du Front National, a appelé le président François Hollande à adopter immédiatement une réponse sécuritaire plus globale. La candidate d'extrême droite a déjà musclé son discours sécuritaire et anti-immigration dans la dernière ligne droite de la campagne. Le conservateur François Fillon a de nouveau dénoncé le totalitarisme islamique, affirmant qu'il appliquerait les mesures sécuritaires d'une main de fer. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve leur a reproché d'instrumentaliser l'attaque, tandis que le centriste Emmanuel Macron a promis une lutte implacable contre le terrorisme. L'attaque s'est produite alors que les 11 candidats défilaient sur un plateau télévisé, dernier rendez-vous avant le vote de dimanche. Trois candidats ont annulé leur dernier déplacement, alors que le leader du mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a maintenu un apéro insoumis vendredi soir à Paris.
Rencontre ce vendredi en Israël entre le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et les dirigeants israéliens pour évoquer l'Iran, la Syrie et un resserrement des relations après les tensions avec l'administration Obama. Il a entre autres soutenu qu'il n'y avait pas de doute que le régime syrien de Bachar al-Assad a conservé des armes chimiques, mettant en garde Damas d'y recourir à nouveau. Salwa Jafari.
Monsieur le secrétaire, bienvenue.
James Mattis a rencontré son homologue, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puis le président israélien Reuven Rivlin. Netanyahou était souriant en accueillant son invité, saluant le changement bienvenu dans la politique américaine au Moyen-Orient. Israël est particulièrement satisfait des mots très clairs et très francs du président américain et de Jim Mattis contre l'Iran et ses activités. Sur ce dossier, justement, Mattis a expliqué vendredi que l'Iran s'en tient au terme de l'accord passé sur le nucléaire, en ajoutant
« En plus de notre campagne pour vaincre ISIS, nous reconnaissons également la nécessité d'affronter les activités déstabilisantes de l'Iran. L'Iran continue de menacer Israël et ses voisins avec des missiles balistiques à ses activités maritimes et cybernétiques et à travers d'autres partis comme le Hezbollah libanais, une organisation terroriste aidant à maintenir le président syrien Bachar Assad au pouvoir. »
À propos du président syrien, Mattis a affirmé qu'il n'y avait pas de doute que le régime de Bachar al-Assad avait conservé des armes chimiques.
Et de l'autre côté, en Syrie, le président Bachar al-Assad accuse le front Fateh al-Sham, ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie, d'être responsable de l'attentat du 15 avril sur des bus transportant des civils évacués. Au moins 126 personnes, dont 68 enfants, avaient été tuées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le président syrien a également démenti toute utilisation de gaz sarin lors de l'attaque chimique présumée de Khan Cheikhoun, tout en affirmant être sûr à 100% que les rebelles ont reçu des armes chimiques depuis la Turquie. L'armée israélienne annonce avoir visé des positions en Syrie en représailles à 3 tirs d'obus de mortier en provenance de son voisin du nord, tombé sur la partie du plateau du Golan occupée par l'État hébreu. Et puis l'Afghanistan, un assaut de plusieurs heures conduit par un commando taliban contre une base militaire des forces afghanes dans le nord du pays, a fait plus de 50 tués. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Actualité économique en Afrique, Claire Morin-Gibourg, La Minute Éco.
La principale centrale patronale de Tunisie, l'Utica, s'est alarmée hier de la dépression rapide de la monnaie nationale. Le dinar a perdu près d'un quart de sa valeur par rapport à l'euro ces 2 dernières années. S'échangeant pour 2 euros en 2015, il a atteint cette semaine un plus bas historique à plus de 2,55 euros. L'Utica a appelé les autorités à intervenir face à ce grand danger pour l'économie du pays déjà fragilisée. Après le rétablissement hier soir des connexions Internet dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le chef du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, François Lousseni-Fall, s'est dit soulagé. Ces parties du pays étaient privées de télécommunications électroniques depuis 93 jours à la suite des revendications fédéralistes. Le Botswana est l'économie la plus attrayante d'Afrique, selon le rapport 2016 de l'Africa Investment, l'index publié par Quantum Global. L'étude est basée sur la bonne performance de la cote de crédit du pays, de sa balance des comptes courants, de sa couverture de l'importation et de la facilité des affaires. Le Maroc a été classé 2e sur cet index grâce à sa forte croissance économique, sa position géographique stratégique, l'augmentation des investissements directs étrangers et son environnement d'affaires globalement favorable.
On enchaîne sur les sports. À mes côtés, Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Morgane.
Football, on connaît les affiches en demi-finale de la Ligue des Champions, Real Atlético. La Juve recroise Monaco.
Que dire Morgane de ce dernier carré de la compétition? C'est sans doute des retrouvailles aux gouttes de revanche. L'Atlético Madrid encore hérité de sa bête noire, le Real Madrid qui lui a arraché le titre 2 fois en finale en 2014 et 2016. Ce n'est pas tout Morgan, le Real a aussi pris le dessus sur l'Atlético en demi-finale en 1959 et en quart de finale en 2015. L'aller se jouera sur la pelouse du Real le 2 mai, tandis que le retour se fera sur le terrain de l'Atlético le 10 mai. Les Colchoneros vont-ils renverser la vapeur? Wait and see. Et dans l'autre affiche, Morgan, l'équipe de la Principauté, Monaco, défiera à domicile le 3 mai la Juventus, qui l'avait éliminée de justesse en quart de finale en 2015. La Juventus, c'est la vieille dame, comme on dit, mais surtout la dame de fer pour sa défense hermétique. Le Barça vient d'en faire les frais. Le match retour entre Monaco et Juve est prévu pour le 9 mai à Turin, Morgan.
Le calendrier de l'Europa League?
Match aller, jeudi le 4 mai, c'est Ajax Amsterdam contre Lyon, tandis que Celta Vigo affrontera Manchester United. Le retour est fixé jeudi le 11 mai avant la grande finale, le 24 mai à Stockholm.
Seb Blatter plaide pour le retour de Michel Platini à l'UEFA ou à la FIFA.
Tout à fait, Morgan. L'ancien président de la FIFA a affirmé qu'il est en possession d'éléments qui peuvent blanchir Platini. Mais Blatter n'a pas voulu les dévoiler. Il s'est contenté plutôt de dire qu'il faut que Platini revienne pour reprendre l'UEFA ou la FIFA. Le tribunal arbitral du sport a réduit sa suspension à 4 ans pour un paiement de 2 millions de francs suisses. reçu de Sepp Blatter.
Allez, rapidement, NBA, Cleveland poursuit son cavalier seul et comble un retard historique.
Les Cavaliers ont réussi l'exploit historique de combler 26 points de retard à la mi-temps grâce à LeBron James. Cleveland a battu les Pacers à Indianapolis 119-114. Le tenant du titre mène désormais 3-0 dans sa série du premier tour des playoffs NBA. Et Conférence Ouest, Memphis a gagné contre San Antonio et Milwaukee Bucks a repris l'avantage sur Toronto.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission Les Dossiers du Jour. Nous ouvrons sur le Niger. Bosso a été la première ville attaquée par Boko Haram en février 2015. En juin 2016, les combattants djihadistes avaient même réussi à prendre la ville à l'armée nigérienne. Un an plus tard, Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, s'est rendu sur place. La vie reprend à Bosso, qui se situe à quelques kilomètres de la frontière nigériane. Le reportage de Nicolas Pineau.
À l'entrée de la ville de Bosso, impossible de rater l'école ni les cris des enfants qui récitent leurs leçons. Depuis octobre dernier, 1000 écoliers ont repris les cours dans cette ville symbole de l'insurrection de Boko Haram depuis 2 ans au Niger. Madouka Mustapha est le directeur de l'école de Bosso. Il avoue être anxieux pour sa sécurité.
Parfois, si on entend certaines rumeurs, on a peur vraiment. C'est notre région et c'est notre pays, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas dire que c'est facile. On n'est pas tellement sûr de nous. Mais malgré tout ça, c'est de nos frères, c'est de nos enfants, donc on n'a pas de choix. On est obligé à les enseigner.
À quelques dizaines de mètres de l'école, le drapeau nigérien flotte dans la cour de la préfecture. Lamine Ousmane en est le secrétaire général depuis 5 ans. Il a connu les attaques de 2015 et 2016 sur la ville et les impacts de balles sont toujours visibles dans son bureau. Ce fonctionnaire apprécie l'amélioration de la sécurité.
Et l'erreur de passer 30 minutes à Bosso sans entendre de coups de fusil ou autre. Maintenant, les gens arrivent à braquer à leurs occupations. Les activités au niveau du lac, comme la culture du maïs et la pêche même à proprement parler, elle n'a pas repris. Parce que jusqu'à présent, la sécurité au niveau du lac, elle n'est pas tout à fait revenue. Quoi. Les gens n'ont pas regagné leur village, leur site.
Le lac Tchad et ses îles, dernier repère de Boko Haram, c'est là que la force multirégionale traque les djihadistes qui avaient pris Bosso en juin 2016. Depuis cette attaque et la débâcle de l'armée nigérienne, des militaires tchadiens sont présents en nombre dans la ville. En coopération avec le Niger, ils sécurisent Bosso et permettent un semblant de retour à la normale. Au marché de Bosso, les activités ont repris, comme l'explique cette commerçante.
Ah, maintenant, il y a du mieux. Maintenant, ça dépasse avant là. Il n'y a pas de sécurité, mais maintenant là. Il y a beaucoup de sécurité. Business là, c'est le manque de rentrer dans le lac, c'est le manque qui nous amène.
L'interdiction de la pêche pèse toujours sur l'économie locale. Autre frein, elle les détourne pour se rendre au Nigeria. Impossible de gagner Malam Fatori, pourtant si proche. Pour traverser la frontière, il faut revenir sur Diffa puis se rendre vers Tamasak. Les réfugiés nigérians de Bosso espèrent rentrer chez eux, mais savent que tout sera à reconstruire dans leur village au Nigeria. Aladji Foukoutar est originaire de Malam Fatori.
Je suis retourné voir ce qui restait de nos affaires lorsque les Tchadiens sont entrés dans Malam Fatori. Tout est brûlé, il n'y a plus rien, nos maisons ont été détruites.
Les habitants rencontrés espèrent que la sécurisation de Bosso s'inscrira dans la durée et que la défaite totale de Boko Haram sera bientôt une réalité. Depuis Bosso au Niger, Nicolas Pineau pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
La crise dans la région du Grand Kassai en RDC a un impact dévastateur sur les enfants, a averti l'UNICEF aujourd'hui. Plus de 1,5 million d'enfants, dont 600 000 qui ont déjà été déplacés de leur foyer, sont à risque en raison de la violence extrême. Nathalie Barge a joint à Kinshasa Yves Wilmot, responsable de la communication de l'UNICEF en RDC, qui décrit cette situation alarmante.
Il y a des enfants qui sont en contact direct avec la violence. Il y a des enfants qui sont blessés dans les combats. Il y a des enfants qui sont utilisés par les milices. Il y a des enfants qui ont perdu le contact avec les parents. On estime qu'aujourd'hui, il y a plus de 4000 enfants qui sont des enfants non accompagnés, donc qui n'ont plus le contact direct avec leurs parents. On estime qu'aujourd'hui, il doit y avoir environ 2000 enfants qui sont encore à l'intérieur des milices. Et puis, il y a l'impact indirect de la crise au niveau des enfants, dans la mesure où la crise et la violence ont un effet dramatique au niveau des services de base. Des écoles ont été détruites. Nous comptons plus de 350 écoles sur les trois provinces du Kassai qui ont été détruites. On estime qu'aujourd'hui, il y a un enfant sur 10 qui ne peut pas poursuivre sa scolarité au niveau de l'école primaire. Dans le Kassai central, il y a une aire de santé sur trois qui ne fonctionne plus, avec toutes les conséquences que cela peut avoir au niveau du cycle de vaccination des enfants, par exemple, donc l'impact indirect de la crise au niveau de la santé et de l'éducation des enfants, ainsi qu'au niveau de la protection des enfants est dramatique.
Au niveau des enfants qui sont utilisés par les milices, est-ce que vous parvenez à les approcher éventuellement et à convaincre donc les groupes armés de les libérer ?
À ce jour, je peux vous dire que nous comptons 384 enfants que nous avons pu libérer, qui étaient des enfants détenus, qui étaient des enfants utilisés par les milices et pour lesquels nous mettons en place aujourd'hui un accompagnement intégré qui inclut un processus de recherche de leurs parents, qui inclut également un appui au niveau psychosocial pour que ces enfants puissent retrouver le chemin vers une vie plus ou moins normale.
Et en ce qui concerne votre réponse d'urgence actuellement, pourriez-vous nous en dire plus ? En quoi consiste-t-elle ?
Dans le Kassai. Aujourd'hui, nous avons entre autres 8 projets à travers la région qui devraient atteindre plus de 173 000 personnes. C'est plus de 23 000 enfants que nous avons déjà pu atteindre avec des programmes au niveau de la nutrition, de la santé, de l'éducation, de la protection. Et nous prévoyons également des programmes de soutien en cash aux populations en détresse afin qu'ils puissent augmenter leur niveau de résilience et de capacité de répondre aux besoins auxquels ils font face aujourd'hui. Cependant, il est clair que nous faisons face à un manque de financement. Aujourd'hui, nous avons 3,5 millions de dollars à notre disposition pour organiser notre réponse d'urgence au Kassai. Nous estimons avoir besoin de au moins 20,6 millions de dollars.
Yves Wilmot, responsable de la communication de l'UNICEF en RDC.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Cap sur le Burundi. Une organisation des droits de l'homme appelle le gouvernement à rapatrier des centaines de filles et femmes victimes du trafic humain au Moyen-Orient. Plus de 800 femmes ont été emmenées à Oman et en Arabie Saoudite, où selon un rapport de l'Observatoire national contre le crime transnational, les promesses alléchantes d'emplois bien rémunérés tournent souvent à l'esclavage moderne. Les explications de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
L'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale a pointé du doigt dans ce rapport 2016, sorti en mars dernier, sur les traitements inhumains et ou dégradants faits à l'endroit de plus de 800 filles et femmes burundaises dans les pays du Golfe, plus précisément en Arabie Saoudite et à Oman. Ces femmes pensaient pouvoir vivre décemment avec des salaires mirobolants, mais ont en revanche subi plusieurs expériences douloureuses. Cette fille est revenue d'Oman en février dernier et se souvient qu'elle a appris cette opportunité de travail par une connaissance, mais a vite déchanté.
Une amie m'a parlé de cette chance inouïe d'aller travailler au Koweït. Je devais normalement préparer des repas pour les universitaires. Mais arrivée sur place, je faisais le travail quotidien d'une bonne de maison. Je devais toucher 250 dollars, mais sur place, je n'ai rien reçu. Je travaillais depuis 8 heures du matin jusque très tard la nuit. Je gardais surtout les enfants.
Le président de l'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale, Prim Mbarubukeye, indique que plus de 30 femmes victimes, certaines de services sexuels, sont déjà revenues des pays du Golfe.
Nous avons pu rapatrier, en collaboration avec d'autres institutions EVRA dans ce domaine, 31 victimes qui sont entrées actuellement de subir une assistance psychosociale.
Les autorités burundaises confirment que des femmes burundaises ont été trafiquées dans les pays du Golfe. Les ministres des Relations extérieures, la Cour opération, Alain Emmanyamitou a répondu aux questions orales au Sénat burundais.
Il est clair que la plupart de ces jeunes dames partent pour travailler dans les ménages, mais qui, dans certains cas, étaient amenées à être asservies dans d'autres fins moins morales que je n'aimerais pas citer.
Alain Emmanyamitou reconnaît que rapatrier 30 à plusieurs dizaines de personnes nécessite souvent des moyens qui ne sont pas directement disponibles.
Le problème qui se pose, c'est un problème de moyens. Je ne crois pas que notre ambassade puisse être assez riche pour avoir des moyens de donner des billets d'avion. Si 30, 40 personnes se présentent pour demander un billet d'avion coûtant en moyenne 1000 dollars, faites le compte.
L'Observatoire national de lutte contre la criminalité transnationale estime que les chiffres de ces filles et femmes pourraient être plus grands pour les années 2015 et 2017. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Centrafrique, des consultations pour une éventuelle amnistie des responsables des violences dans le pays seraient en cours. L'initiative dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme. Comment les Centrafricains apprécient-ils un projet s'il était confirmé? Dossier suivi sur place par Freeman Sipila.
C'est un sujet qui fâche, partout le débat est engagé. Même si rien n'est encore officiel, les rumeurs gagnent Bangui et les autres régions du pays. Selon des indiscrétions, les consultations en cours seraient menées par des représentants d'une organisation continentale. La première organisation à dénoncer cette initiative est le réseau des ONG de défense des droits de l'homme. Accorder l'amnistie aux responsables des crimes encouragerait l'impunité, prévient l'avocat Mathias Barthélémy Moruba, son coordonnateur.
Ce que nous avons vécu en République centrafricaine, je pense qu'il faudrait qu'on dise non à cela. Il faudrait que d'autres personnes ne pensent pas qu'ils vont continuer à nous exploiter, à exploiter notre souffrance et à dire qu'on peut régler les choses par une amnistie. L'amnistie ne peut que provoquer d'autres situations que nous allons regretter demain.
Certains proches du régime de François Bozizé, renversé en mars 2013 par la rébellion de la Silica, seraient favorables à cette initiative. Position partagée par la majorité des groupes armés. L'important aujourd'hui, c'est de rechercher la paix. La justice viendra plus tard, confie un responsable d'un mouvement armé à VOA Afrique, précisant que l'amnistie conditionne tout. La plateforme des confessions religieuses a une position tranchée. Pas d'amnistie pour les criminels. L'archevêque de Bangui, cardinal Dieudonné Zapalainga, plaide en faveur des victimes.
Nous avons une position claire et nette. Nous avons dit, avec toutes les souffrances, pas d'amnistie. Nous voulons que justice soit rendue aussi. Parce que pour nous, le nom de Dieu s'appelle justice. Les pauvres qui ont beaucoup souffert attendent à ce qu'on puisse aussi humaniser leurs bourreaux en leur disant « Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait, il va falloir aussi réparer. » Et nous avons été clairs en disant « Pas d'impunité, pas d'amnistie. »
De son côté, le gouvernement se veut intransigeant. Selon Théodore Jousseau, son porte-parole, il n'y aura pas d'impunité.
On ne peut pas créer une cour pénale spéciale, nommer des magistrats, demander et obtenir l'appui de la communauté internationale pour rendre cette cour opérationnelle, et en même temps on parle d'impunité. La démarche n'est pas cohérente.
Discours politique ou décision ferme, aujourd'hui les Centrafricains attendent beaucoup de la cour pénale spéciale qui se met encore en place. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Souleymane Tarawalé à la console. présentation, Morgan Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.